voir pour voir si ça marche pour vous.
Qu'est-ce qu'on dit quand on est dans une gare?
Une gare, on dit bon voyage.
Non, on dit Paris. Et Marseille, non, pour les espaces de voyage.
Voilà, oui. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5 aussi.
Bonjour, pour rendre hommage à l'historien Marc Ferraud, décédé le 21 mars 2021, la rédaction d'Alternante FM vous propose en nouvelle attention, dans une nouvelle version, cette interview enregistrée en 2003.
L'intérêt de l'histoire, c'est d'essayer d'analyser l'origine des problèmes de notre temps pour qu'on soit mieux à même d'en maîtriser le parcours et de ne pas être toujours surpris par l'événement, comme on l'a été une fois, deux fois, trois fois depuis un demi-siècle, lorsqu'ont lieu des événements incroyables dans les pays d'islam, notamment. Personne ne s'attendait à la révolution iranienne, personne n'a compris ce qu'elle voulait dire, personne ne s'attendait naturellement au World Trade Center, et chaque fois les gens sont saisis d'étonnement et ils n'analysent pas ce qui a pu se produire. Ça va même plus loin, puisqu'aux États-Unis, les premiers jours, les Américains ne comprenaient pas pourquoi ils étaient l'objet d'une agression. Donc ils n'avaient aucune idée du mode de fonctionnement de leur propre politique. Qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, ça c'est un autre problème. Pour l'Iran, on n'a rien compris de ce qui se passait, et même lors de la décolonisation, les Français ne voulaient pas imaginer que les peuples musulmans puissent se révolter. Ça allait plus loin, puisque dans d'autres pays, un gouverneur, lorsqu'il a pris un soulèvement, a répondu « Quand on m'a annoncé ça, j'ai rigolé ». C'est-à-dire qu'il n'imaginait pas que les peuples puissent avoir une pensée politique quand ils n'étaient pas européens, américains ou autres. Et c'est tous ces phénomènes d'européanisation de la vision du monde qui font qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête des autres. Et l'histoire doit permettre de connaître un grand nombre de situations, dans le passé comme dans le présent, et ainsi de mieux interpréter les faits lorsqu'ils se produisent.
Donc votre livre publié en 2002, Le choc de l'islam, nous donne une grille de lecture pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, exactement. Il donne une grille de lecture en ce sens qu'il essaye de nettoyer les esprits ou d'arracher de mauvaises dents, je dis explicitement, pour autant qu'on a des idées généralement fausses sur les mondes de l'islam. Alors il faut d'abord nettoyer ça avant de comprendre. Alors une idée fausse que nous avons tous, par exemple, c'est d'arabiser le monde de l'islam. Alors qu'en fait, bien sûr, le monde de l'islam est né dans des pays arabes, mais on s'aperçoit que les grands réformateurs du siècle, et même du siècle passé, ne sont pas arabes. Les frères musulmans en Égypte ne sont pas arabes, ils sont égyptiens. Et les arabes n'avaient jamais imaginé que l'Égypte ferait partie du monde arabe. Ça s'est trouvé à certains moments, mais en fait, ça n'est pas un arabe. De même, Atatürk, un réformateur de l'islam, n'était pas arabe. De même, Khomeini, en 1979, était iranien, n'était pas arabe. Quant à Ben Laden, qui est arabe, il ne se veut pas arabe, il se veut musulman. Et il fait dater le plus grand malheur des mondes de l'islam de l'année 1920, c'est-à-dire de la fin du califat, c'est-à-dire de la fin de l'unité de l'islam. Et c'est ce qu'il rend compte de son hostilité aux États, aussi bien en état palestinien, puisqu'il était l'ennemi d'Arafat, qu'à l'Irak, avec laquelle il n'a jamais eu de connivence, parce que en plus c'est un État qui se voulait laïque ou qui se disait laïque. Par conséquent, quand on examine le cas de Ben Laden, on voit qu'il est arabe, mais c'est fortuit. Ses acolytes se disent arabes parce que c'est plus noble de se dire arabe que de se dire syrien ou irakien ou jordanien, n'est-ce pas ? Ce sont des identités faibles, parce que arabe, c'est la grande civilisation arabe avec sa langue, avec sa culture. D'ailleurs, la plupart des terroristes de ces dernières décennies viennent d'Arabie, peut-être pas d'Arabie Saoudite, mais de ces coins-là. Donc, on a une identification qui ne nous permet pas de comprendre, par exemple, le rôle important des musulmans du Pakistan. Pourtant, ils veulent faire sauter l'Inde. De même que Ben Laden veut faire sauter les États-Unis, les islamistes du Pakistan veulent sauter l'Inde. L'Inde et les États-Unis, ce sont les deux grandes faillites des mondes de l'islam. Les États-Unis parce qu'ils incarnent la régénérescence du colonialisme, à leurs yeux, n'est-ce pas ? Et l'Inde, parce que c'est le plus grand continent culturel, à part l'islam, qui a été désislamisé par les hindous, et puis par les anglais, et à nouveau par les hindous. Donc voilà les deux gros ennemis, et si on se poste à Peshawar, au lieu de se placer, en Méditerranée, on comprend mieux la géographie des mouvements actuels. Une des erreurs que nous avons aussi, c'est de vouloir absolument identifier l'islam à une religion. Alors bien sûr, c'en est une, comme le christianisme ou le judaïsme. Seulement, le judaïsme, pendant un grand nombre de siècles, mettons 20 ou 25 siècles, si vous voulez, n'a été qu'une religion. Il a été un État à ses origines, et il est redevenu, depuis que la Palestine a été en partie colonisée par les Juifs en 1948, et qu'il y a maintenant un État juif en Palestine qui est un État religieux. Mais nous avons connu ça au Moyen-Âge. Je veux dire que dans nos sociétés, au Moyen-Âge, l'Église et l'État se confondaient. Hein. Et ce qu'on appelait la civilisation chrétienne, à cette époque, c'était une civilisation qui n'était pas seulement une religion. C'était un mode de gouvernement, c'était certaines lois qui émanaient des textes sacrés. Mais l'islam, c'est la même chose. C'est pas seulement une religion, c'est aussi une manière de vivre et surtout une manière de poser la morale du gouvernement. Or, nous, notre morale du gouvernement en Occident, c'est le profit et l'argent. Alors que la morale du gouvernement en pays d'islam, ça peut être autre chose. Ça peut être la justice, ça peut être l'égalité, ça peut être ce qu'on veut. Alors, je dis pas que c'est appliqué, mais disons que ce sont deux visions du gouvernement des hommes qui sont différentes. Alors, quand on dit que c'est une religion, on n'arrive pas à comprendre un certain nombre de phénomènes et ça amène des travers dangereux. Par exemple, en France, on a tendance, j'allais dire, à islamiser les musulmans. Quand il y a un problème avec les musulmans, on va voir les mosquées, n'est-ce pas ? On appelle les imams, alors que les musulmans ne sont pas seulement musulmans. De même que pendant la guerre, il y a un très beau livre qui a raconté ça, c'est de Annette Vivorka. Ils étaient juifs, résistants, communistes. Les mêmes personnes, pendant la guerre, étaient essentiellement des résistants. Et puis un beau jour, ils sont devenus communistes. Et puis maintenant, beaucoup sont devenus plutôt juifs que communistes ou que résistants. On peut être successivement plusieurs choses, ou simultanément, avec des dosages différents. Ben, c'est la même chose pour l'islam. Les musulmans ne sont pas que musulmans. Ils sont aussi citoyens, ils sont jeunes, ils font la grève, ils font du rock, ils font du sport, ils entrent dans les médias. Et quand on croit qu'on va résoudre leurs problèmes, c'est comme si nous on s'adressait à chaque fois au curé, n'est-ce pas ? Ben, on s'adressait au curé ou à l'évêque au XVIIe siècle, mais pas aujourd'hui. Or avec les musulmans, on fait que ça. Vous voyez ? On réunit les imams. Or en plus, ces imams ont été nommés par l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas ? Ou par l'Algérie ou par le Maroc. Les mosquées ont été payées par l'Arabie Saoudite, l'Algérie ou le Maroc. Et on veut, sinon les franciser, au moins on pense que c'est mieux qu'ils soient intégrés, mais pour les intégrer, on s'adresse à ceux qui désintègrent. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Comment comprendre notre attitude aujourd'hui ?
Par le fait, justement, qu'on a réduit l'islam à une religion, alors qu'on n'a pas réduit la France à la catholicité. Alors, comme il y a eu des conflits multiples entre les Français de métropole et les musulmans d'Afrique du Nord, que pendant longtemps, ça a été le temps du mépris, ça l'est resté d'ailleurs un petit peu, et qu'on a voulu accommoder, en quelque sorte, leur présence, alors que beaucoup étaient venus à cause de la guerre, d'autres à cause du travail qu'on leur procurait à bon compte, etc., etc., pour accommoder les choses, pour qu'ils ne soient pas au ghetto, on leur a construit des mosquées. Au lieu de les faire entrer dans l'université, ou en médecine, ou j'en sais rien, ou de leur trouver des jobs et des boulots, pas, on les a sur-islamisés, en croyant leur faire plaisir. Alors c'était un geste qui n'a pas été perçu négativement, mais qui est un peu un faux sens. Le racisme n'est pas le trait particulier de notre cité civilisation française. Je dirais même c'est le contraire. Nous sommes totalement xénophobes, n'est-ce pas ? Depuis toujours. Les premiers jurons contre les étrangers qui prennent notre pain et soudoient nos filles et gagnent notre argent, c'est d'un certain Othman, H-O-T-M-A-N, qui vivait à l'époque de Charles IX, 1559, qu'on a été anti-italien. Rappelez-vous comment on a traité Concini, comment on a traité Mazarin, comment on a traité Catherine de Médicis, dans l'histoire et ailleurs, comme des personnages troubles, toujours sirupeux et douteux. Donc on a d'abord été anti-italien. On l'est redevenu au XIXe siècle, quand c'était plus les riches italiens qui venaient, mais les pauvres, ils prenaient notre travail. Et d'un, on a été anti-polonais, ça on a oublié. À l'époque de la grande laïcité, entre 1870 et 1914, on a été antisémite, et on l'est encore un tout petit peu depuis les années 30. On a été, etc., etc. Et puis maintenant, on est un peu anti-arabe, mais on l'est de moins en moins. Parce que d'un côté, nous sommes les plus xénophobes, parce que c'est le pays qui a le plus d'étrangers, par strate, mais d'un autre côté, on est les plus intégrateurs. Et il y a des gens qui sont italiens, en France, ils ne savent même plus qu'ils sont italiens. N'est-ce pas ? Moi, je suis un nom italien, mais ça ne me vient jamais à l'esprit, ni à l'esprit de personne, de penser que je suis italien. D'ailleurs, je ne suis pas italien, je n'ai jamais... Mon arrière-grand-père est venu je ne sais pas quand, etc. Mais la même chose pour beaucoup de Polonais, beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Portugais, beaucoup de... Bon. Donc, nous sommes un pays très intégrateur, mais l'envers de ça, c'est qu'on est très xénophobe. Donc, on se juge plus raciste que les autres. Mais ce n'est pas vrai. Les Anglais sont aussi racistes que nous, les Russes tout autant, et on peut continuer.
La Seconde Guerre du Golfe a commencé officiellement le 20 mars 2003, Deux jours après l'enregistrement de cette interview.
On se raccrochait à l'actualité. Votre lecture sur ce qui se passe en Irak.
En Irak, attendons ce soir. Mais enfin, ce qu'on peut imaginer, c'est que les Américains marcheront sur Bagdad. C'est plus facile que l'Afghanistan. D'ailleurs, s'ils attaquent l'Irak, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. L'Irak n'a que les armes que les Américains lui ont livrées, ou presque. Donc, ils en ont la comptabilité. Et ils savent très bien qu'ils vont avancer. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme effet pervers, comme soulèvement dans les pays autres, contre des gouvernements plus ou moins associés aux Américains? C'est ça le hic. Est-ce qu'en Égypte, Moubarak va résister à la montée des frères musulmans et des intégristes? Est-ce qu'en Jordanie, il n'y aura pas des mouvements? Est-ce qu'au Pakistan, il n'y en aura pas aussi? Qu'est-ce qui va se passer en Arabie Saoudite? C'est plutôt tout ça. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que la politique de Chirac, de Poutine et de Schröder, qui ont pris nettement position dès le départ contre une intervention armée et en faveur du désarmement, par contre, est une position qui, en quelque sorte, met la France, l'Allemagne et la Russie à l'abri, si je puis dire, de tous les drames qui pourraient suivre l'intervention américaine, pour autant que ce sont les trois pays où il y a le plus de musulmans. Les Turcs en Allemagne, chez nous les Maghrébins, et les Tatars et autres en Russie, proprement dite. Et cette politique de dégagement est intéressante, notamment chez Poutine, qui d'un côté condamne le terrorisme en Tchétchénie, et là il est l'allié des Américains, mais d'un autre côté il compte les Américains en Irak, parce qu'il juge que l'Irak n'est pas le foyer du terrorisme actuel.
On ne tire pas les enseignements de l'histoire, ça se reproduit, et puis on fait quasiment les mêmes erreurs.
Ça se reproduit, on fait les mêmes erreurs, mais petit à petit, disons, on délimite les foyers d'infection. Alors on délimite l'usage de certaines armes, on délimite les cas de conflit. On sait qu'il y a un problème sensible en Irak entre les Kurdes, les chiites et le pouvoir actuel. C'est-à-dire que, malgré tout, même si des catastrophes sont toujours en vue dans l'avenir, il n'y a pas de fin de l'histoire, n'est-ce pas ? C'est une connerie d'avoir écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'histoire ». La fin de l'histoire, ça veut dire que les Américains dirigent tout. C'est ça que ça voulait dire, finalement, si on lit entre les lignes, n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs un conseiller de Bush, Fukuyama. Donc, d'une certaine façon, l'histoire permet quand même de préjuger de certaines choses, n'est-ce pas ? Et d'éviter, non pas des catastrophes, mais d'en délimiter le champ.
Une guerre au sein de la communauté européenne est impensable aujourd'hui ?
Pour l'instant, absolument, parce que les divergences qu'il y a actuellement entre, mettons, la France et l'Angleterre sur l'Irak n'affectent en rien les relations franco-britanniques, ni les rapports personnels, c'est simplement des saillies de la presse anglaise, n'est-ce pas ? Ou française, selon les moments. En ce moment, c'est les Anglais, à d'autres moments, c'est les Français, et pareil avec les États-Unis. Avec les États-Unis, c'est plus grave, parce que les Américains sont de plus en plus religieux, intégristes, sûrs de leur supériorité, arrogants, et ils vont en quelque sorte en vouloir à ceux qui ne jugent pas que Dieu leur tend la main. N'est-ce pas ? Donc ils ont une attitude aussi, comment je dirais, excessive que les intégristes du genre de Ben Laden. Quand on fait appel à Dieu, c'est mauvais.
L'interview de Marc Ferraud que nous venons de vous proposer en nouvelle attention pour lui rendre hommage a été enregistrée en 2003 à l'occasion de son passage à Nantes dans le cadre des lundis philo du Pianoctet.
C'est une salle très attentive. Disons qu'on a beaucoup de plaisir à voir qu'elle réagit en quelque sorte au détour de la réflexion. Pas un instant je n'ai senti ni chez moi ni chez eux l'ennui. Et il y a eu énormément de questions très utiles et très pertinentes. Donc c'est une très très bonne salle et ma surprise n'est plus aussi grande qu'autrefois, mais je m'aperçois que ça contredit ce lieu commun que les Français se dépolitisent. Ils se dépolitisent par rapport à leur parti politique, ou plutôt ils se dépolitisent par rapport aux manœuvres de leur parti politique en eux-mêmes, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, pas besoin de faire le catalogue. Mais la politique les intéresse autant qu'autrefois et c'est normal. C'est quand même notre vie la politique, hein, c'est l'avenir du monde. Donc ils s'intéressent et alors cet intérêt se manifeste tantôt par la création d'associations, n'est-ce pas ? Civiques, au début c'est pour le sport, puis après c'est pour les vieillards, puis après c'est pour autre chose, enfin il y en a des milliers d'associations. Et la participation à ces débats, où moi je le vois, dans les grandes villes comme dans les petites, il y a toujours beaucoup de monde. Alors qu'il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Je sais que quand il y a 20 ou 30 ans, on me demandait de faire une conférence sur, je sais pas, l'Algérie ou le communisme, il y avait 30 personnes ou 40, maintenant il y en a 500.
Est-ce que vous avez un nom connu ?
Non. Non, parce que vous verrez que la semaine prochaine ou dans 15 jours, même s'il vient quelqu'un de moins connu, il y aura 500 personnes quand même, si le sujet est intéressant.